Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodat le 4 novembre 1987.
Il y a une question à laquelle je reviens tout de suite. Pouvez-vous revenir sur la distinction entre « il y a » et « ceci est » ? Faut pas que ça vous empêche de dormir. « Il y a » affectivement. On est comme passif. Ceci est, on est comme actif. Mais si on pousse cet aspect actif, on devient mesure de la réalité. Ceci est parce que je veux que ceci existe. Ce n'est plus non plus du réalisme. Puis autre question. Comment découvre-t-on les catégories? On va revenir après. Je vous ai dit, pour cette question, ceci est, il y a. C'est à partir de d'Occam que la distinction s'est faite d'une manière très nette. Vous ne pouvez pas la trouver chez Aristote, c'est très curieux. Parce que normalement, notre jugement d'existence s'exprime tout simplement. Ceci est à travers toutes les réalités. Et vous ne vous posez pas tellement la question. Je vous ai dit, quoi, quand vous allez acheter des carottes, vous n'allez pas demander à la personne qui vous les vend, est-ce que vraiment ces carottes existent ? Elle verra le malade. Et il faut comprendre comment, historiquement, le problème s'est posé. Occam se pose la question, qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle? Il dit, je pense, intelligo. Comme Descartes dira cogito. Comme, du reste, je crois, il y a toute une série de choses qui seraient intéressantes à regarder. C'est cette recherche critique du premier. Vous avez déjà, chez Henri de Gand, avec Avicenne, que ce qui est premier dans notre vie intellectuelle, ce sont les intentions premières. Henri de Gand le dit textuellement. Donc, ils insistent que déjà, ce qui est premier, ce sont ce que nous portons en nous. Et je crois qu'en effet, que ça s'enracine dans tout le courant néoplatonicien. Vous voyez, si vous regardez chez Plotin, Plotin a une petite énéade très curieuse et intéressante quand il se pose la question. Comment se fait-il que tu es tellement distrait, que tu te laisses prendre par toutes les choses extérieures, et que tu n'arrives pas à retrouver ce qu'il y a de plus divin en toi? Donc il montre bien qu'il faut redécouvrir au-dedans de nous-mêmes ce qu'il y a de plus divin, et ne pas se laisser prendre par les choses extérieures. Ceci, je crois, conduit à ce primat de l'intériorité. Oui, la tentation est très très grande. Il faut bien comprendre, la tentation est très grande. Parce que c'est évident que c'est ce qu'il y a de spirituel qui est le plus séduisant. Ce que je connais, ce que je réfléchis, ce que toutes mes connaissances intérieur, voyons, mathématiques, c'est bien ce primat d'une réflexion intérieure, et tout ce qui est de l'ordre de l'expérience extérieure et secondaire, c'est du contingent. Il n'y a que par la réflexion que vous arrivez au nécessaire, vous voyez, primat du nécessaire. Le nécessaire apparaît quand? À partir de la réflexion sur vos pensées, sur vos idées. Alors si c'est le nécessaire que vous cherchez en premier lieu, attitude d'Avicenne. Nécessairement, vous dites, ce qui est premier, c'est les essences. Donc les intentions premières, les essences, que nous portons en nous, par nos idées. Tandis que toutes vos expériences externes, c'est le contingent. Alors il y a une espèce d'opposition entre le nécessaire et le contingent, qui fait que on s'incline vers le nécessaire, puisque c'est le nécessaire qui, lui, dure tout le temps. Tandis que le contingent passe, le pas de pareil, vous voyez, toujours le pas de pareil, tout coule. Et alors on essaie de réfléchir sur ce qui demeure, l'essence, les intentions premières. Et en gamme, je pense, j'intellige. Je crois qu'il faut bien comprendre que c'est très enraciné en nous. Parce qu'il y a en nous l'esprit et le sensible et le corps. C'est par le point de vue de l'intériorité de la pensée, de l'affectivité, que nous maintenons en nous ce monde intérieur. Et que le point de vue sensible, contact avec l'extérieur. Alors, distinction de l'âme et du corps, priorité de l'âme sur le corps, on est tous d'accord. Priorité d'intériorité sur l'extériorité. Il faut très très fort sentir ça. Parce que si on ne sent pas cette tentation permanente du spirituel et du primat du spirituel, on ne peut pas découvrir le réalisme de la philosophie. C'est vieux, hein, puisque c'est Platon avant Plotin. C'est la réminiscence. Vous comprenez, pour Platon, mon âme, avant d'être unie à mon corps, faisait partie du cortège des dieux. J'étais un petit page des dieux. C'est merveilleux, ça. Les oignons d'Égypte. Extraordinaire. J'étais un petit page des dieux. J'étais uniquement relatif aux dieux. Et toute ma vie, c'était cette contemplation des dieux. C'est merveilleux. Il n'y a personne qui m'ennuie, là. J'étais seul avec les dieux. C'est un rêve, vous connaissez, ce grand rêve qu'on porte tous en soi. Un rêve extraordinaire. Et alors là, c'est la réminiscence. Mais ça a peu d'importance, comme on l'explique, c'est toujours le même rêve. Prima de l'intériorité. Prima du rêve. L'avantage du rêve, c'est que personne ne vous ennuie. Tandis que dans la réalité, oh là 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 là, hein, vous êtes en face de gens plus puissants que vous, de gens qui s'imposent, d'une réalité qui est matérielle, qui est terrible. Il y a quelque chose de juste, hein, faut bien comprendre. Il y a quelque chose de juste du côté affectif, du côté nécessité. Cette intériorité s'impose à moi comme première. Je ne peux redécouvrir le réalisme que si je me pose la question de la vérité. Et dans la question de la vérité, je vois bien que tant que je suis uniquement dans une attitude de réflexion sur moi-même, cette attitude de réflexion sur moi-même, la vérité c'est l'harmonie. J'accepte tout ce qui est harmonieux avec tout ce que j'ai déjà acquis. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est de découvrir l'autre devant lequel je me trouve. C'est de respecter l'autre et de m'affronter à l'autre. Oui, vérité va avec le point de vue de la découverte de ce qui est autre que moi, ce qui existe antérieurement à moi. Et c'est très important, bien saisir ça. Alors si je me place de ce côté-là, je dis évidemment, je ne rejoins le réel que par mes sensations. Du moins, je ne rejoins le réel dans tout son absolu de réel, autre que ma connaissance, autre que mon affectivité. Je le rejoins par l'expérience qui me fait toucher l'autre. C'est beaucoup plus humble, puisque c'est la réalité sensible. c'est l'esprit. Vous voyez, c'est ça que je voudrais que vous sentiez et que Plotin a très très bien senti. La voix d'intériorité, la voix d'extériorité. Et Plotin met la voix d'intériorité avant. C'est la voix d'intériorité qui commande la voix d'extériorité. Ça, c'est les spirituels. Mais il manque de réalisme. Parce que la voix d'intériorité dépend de la voix d'extériorité. Avant de pouvoir penser intérieurement, il faut nécessairement qu'il y ait ce contact avec les autres réalités. Alors, le premier qui a exprimé cela d'une façon très critique, c'est Occam. Et Occam dit ceci, alors à ce moment-là, vous allez comprendre la différence de le tatou, il y a, et ceci est, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai été très rapidement, alors je reviens. Donc il se pose la question, qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle, dans ma vie spirituelle, qu'est-ce qui est premier dans ma vie philosophique, intellico, pas la peine de traduire, et amo, Socrates. Mais comme c'est curieux, quand il dit amo, il dit Socrate, intelligo, il ne dit rien. C'est très astucieux. Alors, intelligo, j'intellige. Voilà ce qui est premier, j'intellige. Mais comment rejoindre le réel extérieur à moi? C'est par mes sensations qui viennent s'ajouter à cet intelligo. La res, la réalité, les réalités sensibles. Celui qui est à côté de moi, la table, tout ce qui est à côté de moi, toutes les réalités sensibles, le monde physique, l'univers. Les hommes, c'est tout, tout ce qui est autre que moi. Je suis en contact immédiat avec ces réalités sensibles par les sensations. Ça, je le constate. Quand vous vous réveillez le matin, quoi. Quand vous vous réveillez le matin, intelligo. Et à mon Socratem, j'ai fait des rêves admirables. Intelligo, je demeure dans quelque chose de très beau et très grand. Mais comment rejoindre réel les sensations? Je touche. Tiens, voilà. Ah, c'était du rêve. On fait ce petit raisonnement, mais constamment. Occam le dit, l'exprime. Il le thématise, si vous voulez. Intelligo plus les sensations, et je rejoins le réel. On additionne par le fait même. Qu'est-ce qui est intelligé? C'est seulement ce qui est contenu dans l'intelligo. Les sensations me font contact avec les réalités sensibles. Mais les sensations, qu'est-ce qu'elles touchent? Les qualités sensibles. Voilà ce que... Donc, l'intelligible plus ces qualités sensibles me mettent en contact avec la réalité. Et comme c'est matériel, c'est uniquement descriptif, quoi. Et à ce moment-là, je dis, tatou, il y a quelque chose. Et quand je dis, il y a quelque chose, je suis en contact sensible avec la réalité, mais je ne connais rien de cette réalité. La seule chose que je connais, c'est la pensée intelligo. Ceux qui connaissent un tout petit peu Kant s'aperçoivent combien c'est proche de Kant. Kant dit le noumen, la réalité profonde, je ne la connais pas. Qu'est-ce que je connais? Les formes a priori de mon esprit, intelligo. C'est exactement la même coupure. C'est là qu'on voit que Kant n'a rien inventé du tout. C'est très ancien. Et que ça remonte pratiquement à Platon. C'est du platonisme. Sous des formes différentes, mais ça, Platon, c'est mon rêve intérieur qui continue. Et l'extérieur, ah, très bien, oh, je le reconnais, tatou, il est donné. C'est évident, je suis ici. Bon, oui, c'est très matériel que je suis ici. Ce qui est important, c'est mon rêve intérieur qui continue. chose de très astucieux, si vous voulez. Mais en même temps, vous voyez que c'est terrible, parce que je m'enferme. Je m'enferme en moi-même. Et le monde extérieur, d'un tour, il est donné. Je ne connais pas. Bon, ça c'est la position d'Occam. A fait des petits. Jusque Kant. D'Occam à Kant. C'est la même position. Et avant Occam, Occam qui veut être aristotélicien, ne s'aperçoit pas qu'en faisant ça, il est néoplatonicien. Il ne s'en aperçoit pas. Ce qui prouve qu'on porte en soi, au sens très très fort, l'aristotélisme et le néoplatonisme. À certaines heures, vous êtes néoplatonicien, quand vous êtes fatigué. Le néoplatonicien renaît quand vous êtes fatigué. Ça, c'est sûr. Quand vous avez un réalisme, et que vous êtes bien, ah, attention, je suis en contact. Mais le néoplatonisme, c'est le grand rêve de l'humanité que nous portons en nous. Et il faut le reconnaître. C'est le grand rêve. Alors, c'est très important de voir ça, ce primat sur Intelligo et puis Datur donné par sens. Quand je dis ceci est, oui, ceci est, qu'est-ce que j'affirme? J'affirme que mon intelligence présente dans mes sens. Le chien, quand il touche cette table et qu'il se met à la lécher, n'a pas le même contact que moi-même quand je la touche. D'abord, il a des pattes assez grosses. Je suis quand même, mon toucher est un peu plus fin que la patte du chien. Plus de dégâts. Mais toute la différence, c'est quand je touche la table, je sais que je la touche. Et c'est mon intelligence présente dans ma sensation. Et l'intelligence présente dans la sensation découvre dans la réalité ce qui est immédiatement le bien de l'intelligence. Et qu'est-ce qui est le bien de l'intelligence dans la réalité? Ce n'est pas parce qu'elle est sensible. Oui, c'est intéressant. C'est froid, c'est chaud, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas ça qui intéresse mon intelligence en premier lieu. Ça intéresse mes sensations. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité est autre chose que les apparences, que les sensibles. Ce qui intéresse l'intelligence, parce que c'est intus legere, c'est regarder la réalité dans ce qu'elle a de plus profond. C'est que cette réalité existe. C'est ça qui est intéressant. Quand vous vous réveillez le matin, ce qui est intéressant, quand vous touchez votre lit, c'est qu'il existe. Et quand vous vous touchez la tête, c'est qu'elle existe. Vous sortez de votre rêve. Et puis vous dites ça, ah, ça c'est. C'est très curieux. L'intelligence, tout de suite, cherche ce qui est. Dans l'arrêté, ce qui existe, c'est-à-dire ce qui est. Vous voyez, vous rejoignez cet adage de saint Thomas, primo cadit in intellectus es. Mais cadit in intellectus par les sensations. Votre intelligence est présente dans votre toucher. Puisque l'intelligence n'a pas de lieu. Votre intelligence est dans vos yeux. Il y a une manière bête de regarder le train qui passe. Il y a une manière intelligente de le regarder. Ça c'est sûr. Il y a une manière bête de regarder son frère. Ah, tu es là, tiens. Tu m'empêches de passer. Voilà, le frère c'est l'obstacle. Le frère c'est l'enfer. L'enfer c'est l'autre. Vous voyez, c'est l'obstacle. L'enfer, c'est l'obstacle. L'enfer, c'est ce que je connais pas. C'est toujours très dangereux. Tandis que c'est pas ça du tout. comme quelque chose qui vient s'ajouter. Mais la sensation, c'est la sensation humaine, tout imprégnée d'intelligence. Et au service de l'intelligence. Donc, ça va plus loin. Du côté réceptivité et du côté actif. Oui, mais des deux côtés, vous avez réceptivité, activité. Mais c'est très vrai que la réceptivité du côté du datour, elle est beaucoup moins grande. Parce qu'en réalité, quand vous dites intelligo, qu'est-ce que vous recevez? Vous, c'est vous. Puisque le datour, vous le refusez. Le datour ne pénètre pas en vous. C'est l'étranger. C'est les pièces rapportées. Mais c'est le datour. C'est les réalités sensibles. C'est tout le monde extérieur. C'est l'intériorité qui m'intéresse. L'intériorité, c'est moi. Vous voyez là, quand vous regardez Kant, quand vous regardez tout l'aspect psychologique ensuite qui va venir, toujours ça va dans le même sens. Et nous avons tout ça à dépasser pour redécouvrir ceci. Mais c'est très difficile pour nous, ça je suis tout à fait d'accord. Et si on ne fait pas cela, la conversion intellectuelle ne se fait pas et nous restons dans la perspective néo-platonicienne. Et pour se donner une conscience tranquille, on se dit mais saint Thomas est beaucoup plus néo-platonicien qu'aristotélicien. Alors à ce moment-là, vous voyez bien que je suis dans la tradition. On ne voit pas que saint Thomas a saisi avec beaucoup de netteté l'erreur du néoplatonisme. Saint Thomas n'a jamais considéré que le néoplatonisme de Plotin et de Platon, c'est la vérité. Il est toujours revenu à ce fait que notre intelligence se nourrit par les sens des réalités extrinsèques. Moi, je comprends très bien. Ça met du temps. Ça met du temps. Surtout que ce sont des choses qu'on ne dit jamais. C'est bien simple. On ne le dit jamais. Parce qu'on ne veut pas redécouvrir une philosophie réaliste. Tout le monde est complice. Vivons dans un rêve. C'est tellement plus beau. Mais voyez le très grand danger. Quand vous passez dans le surnaturel, si vous n'avez pas compris le jugement d'existence, qu'est-ce que c'est que le jugement d'existence dans la foi? Dans la foi, vous dites datour. Oui, Dieu existe, c'est sûr, mais il n'a rien à faire avec moi. Je ne peux pas le connaître. Donc je refuse même de dire que Dieu est. Je dis ceci, hein, vous savez, comme ça a été écrit. Si je dis Dieu est, il faut dire Dieu. Alors voyez, tout le réalisme de la foi disparaît. Je n'atteins plus directement le mystère. Je suis dans ce que je connais du mystère. Or précisément, ce que vous connaissez du mystère n'est pas le mystère. Et donc vous n'entrez jamais dans cette contemplation du mystère. Vous continuez de méditer. Ah, c'est très intéressant de méditer, parce que je m'enrichis. Je suis dans mes idées. Mais je ne suis pas en présence de Dieu. Je ne suis pas face à Dieu, dans un état de dépouillement et de réceptivité. Ce que fait la foi. Vous voyez, ça n'a l'air de rien là, mais ça commande. C'est ça l'importance de ce point de départ. pouvais pas ne pas dire ça, puisque Hans, c'est ce qui est. C'est pas ce que j'ai connu de la réalité. Donc, nous étions arrivés à l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et nous avions vu que la signification, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et le jugement d'existence, ceci est en même signification. Et donc, ce qui permet de revenir à l'expérience, c'est par l'expérience que s'enrichit en moi ma connaissance de la réalité. Ça, c'est un fait. Les voyages forment la jeunesse. C'est évident que quand il y a de nouveaux contacts, il y a quelque chose qui s'enrichit. Alors, c'est toujours la même chose, voyez. L'approfondissement d'intériorité et l'enrichissement de ce qui vient d'extérieur. Il y a une espèce d'équilibre permanent qu'on doit avoir. Or, le réel, pour moi, le plus riche, c'est pas le Mont Blanc. Le réel, le plus riche pour moi, c'est l'homme. Okay, pour certains, c'est le Mont Blanc. Ou l'Himalaya. Hein? C'est-à-dire la montagne qui est la plus élevée, la mer, c'est ça le plus... Non, ce qui est plus riche dans l'ordre de l'être, c'est l'homme. C'est là où la connaissance de l'être est la plus parfaite. Ce que Heidegger a très bien compris avec son Dasein. Si c'est l'homme, je peux me dire que l'être, ce qui est chez l'homme, apparaît de diverses manières. La découverte des catégories, c'est-à-dire la découverte de ces facettes multiples et diverses, de l'être dans l'homme, de l'être à l'homme, selon l'expression si belle d'Aristote. Einein, anthropo, à l'homme, l'être en vous, prend des facettes, des modalités diverses. Et si je suis un petit peu curieux et que je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je peux en effet dire que l'être, pour moi, c'est quoi en premier lieu ? C'est je suis. Je suis, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Pierre. Pierre, il est. Pierre existe, je suis. J'existe. J'ai une autonomie dans mon existence qui est unique. J'existe. Après, qu'est-ce que vous dites ? Ah, mais je suis en tant qu'homme. C'est vrai, je n'existe pas comme un ange. C'est dans mes rêves que j'existe comme un ange. Dans mes rêves, je plafonne, je plane. Et quelquefois, j'ai envie d'être un ange. Ça peut exister. C'est tellement plus commode, vous comprenez, d'être un ange. Pas être obligé de s'asseoir. C'est quand même très gênant. Tandis qu'un ange, il n'est ni debout, ni à genoux, ni... Il est un ange. C'est ça, être un ange. C'est être ni debout, ni à genoux. C'est être au-delà de toutes les situations particulières. Je suis un homme. Et dans cet homme est impliqué l'animal. Je le sais. Et dans cet homme est impliqué l'intelligence. Oui, tout ça dans l'homme, quand je dis ça. Après, ah, je vois que j'ai un corps. Ça fait partie de l'homme. Donc, quantité. Oui, je décris, je constate tout simplement. C'est... Et par là, j'ai cette table des catégories qui s'élabore. une fois que vous avez saisi ces catégories, et que vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Vous voyez que vous ne pouvez pas vous arrêter. Alors ça, faites-le vous-même. À l'habitus. Pourquoi ? Parce que c'est très extérieur. L'utilisation d'un outil, c'est pas mon être. Ma manière de me servir de mon habit, c'est pas mon être. C'est mon avoir. Alors je reprends tout de suite la grande distinction être et avoir. Et si je veux savoir ce que je suis, je dois dépasser mon avoir. C'est bien évident. Et la distinction être et avoir, c'est pas Gabriel Marcel qui l'a inventé. C'est très vieux, c'est dans les catégories. L'avoir est ici. Tandis pour Gabriel Marcel, l'avoir est ici. C'est très curieux, c'est intéressant. Être et avoir. Est-ce que homme, c'est un avoir ? Est-ce que le corps, c'est un avoir ? Ou est-ce que c'est votre être ? Hein ? Pas si commode que ça de répondre. Vous savez, répondre, à certains moments, mon corps apparaît comme un avoir. À d'autres moments, il apparaît comme mon être. Et c'est pour ça qu'on voit très bien que cette distinction est assez grosse. C'est assez gros. J'aime mieux les catégories. J'aime beaucoup mieux les catégories. C'est bien plus fin comme distinction que être et avoir. Mais être et avoir, c'est facile. Tandis que les catégories, ça demande un tout petit peu de réflexion. Mais c'est vrai que c'est très fin, les catégories. Alors je vois que je ne peux pas m'arrêter à avoir. Je ne peux pas m'arrêter à situs. Je ne peux pas m'arrêter à tout ça. Et j'arrête.